Merci beaucoup, Lucie, et merci de m'avoir permis de vous présenter ces recommandations. Donc, moi, je suis co-coordinatrice des recommandations pour la pratique clinique du collège du côté obstétrical. Mais les experts qui ont rédigé ces recommandations, ce sont Paul Maurice et Solène Vigoureux. Et nous, on a participé avec Nicolas Sananès, Charles Garabédian et France Hartzner comme représentante des usagères à la relecture et à la validation. Donc, je ne vais pas vous faire refaire le rationnel de l'immunisation parce que vous le connaissez bien. Mais donc, la question qu'on se pose aujourd'hui, qu'on s'est posée pour ces recommandations, c'est celle du passage des hématies fœtales au premier trimestre, avant 12 semaines d'aménorrhée, et donc de l'intérêt des immunoglobulines anti-D au cours de ce premier trimestre pour éviter la survenue d'une alloimmunisation rhésus. Donc pourquoi est-ce qu'on s'est posé cette question au sein du Collège des gynéco-obstétriciens ? Eh bien parce qu'il y a un grand nombre d'autres sociétés savantes qui avaient émis des recommandations plus récentes que les nôtres, puisque celle du Collège datait de 2005, et pour lesquelles la prophylaxie était remise en question dans un certain nombre de situations. Vous voyez ici pour le NICE, par exemple, en Angleterre, avant 10 semaines d'aménorrhée pour les IVG médicamenteux, ça n'était pas obligatoire. Pour la FIGO, avant 10 semaines d'aménorrhée aussi pour les IVG médicamenteuses. Et pour l'OMS et même pour le Royal College, avant 12 semaines, il n'y avait plus d'indication ni pour les IVG chirurgicales ni pour les IVG médicamenteuses à administrer cette prophylaxie. Donc on a voulu se pencher sur la littérature existante, la littérature plus récente, pour essayer de comprendre ce qui avait amené à ces modifications de recommandations et évaluer si il fallait nous aussi modifier les recommandations. Donc, quelles sont les... En fait, il y a une méthodologie qui est utilisée par le Collège des gynéco-obstétriciens et de nombreuses autres sociétés savantes pour élaborer ces recommandations. Et il y a deux types de recommandations, soit le consensus formalisé d'experts, soit les vraies recommandations pour la pratique clinique telle qu'on les conçoit. Et désormais, ces recommandations pour la pratique clinique, elles se basent sur des questions PICO. Donc, c'est des questions qui sont très ciblées et qui concernent la population qui est ciblée par cette recommandation, l'évaluation de l'intervention par rapport à une comparaison qui peut être un placebo, qui peut être l'absence d'intervention, qui peut être un autre traitement, et pour évaluer une issue, un outcome, donc d'où l'acronyme PICO. Et donc, on a choisi... pour cette recommandation de suivre cette méthodologie, la méthodologie PICO, et donc de poser la question chez une patiente rhésus négative, quand le géniteur est rhésus positif ou inconnu, en cas d'interruption volontaire de grossesse arrêtée, de fausse couche, de GEU ou de métrorragie, avant 12 semaines d'aménorrhée, est-ce que l'intervention qui est l'injection d'immunoglobuline anti-D en comparaison à l'absence d'injection d'immunoglobuline, est-ce qu'elle permet de réduire le risque d'alloimmunisation ? Donc c'est vraiment une population cible et une intervention qu'on évalue. Et donc on a choisi, comme je vous le disais, cette recommandation de type PICO, qui est, et finalement il y a trois recommandations qui ont été émises, avec une qualité de preuve qui a été jugée comme étant très basse, et puis... Du fait de, habituellement, quand c'est une question PICO, et notamment quand la littérature est de bonne qualité de preuve, on se passe de procédure Delphi, puisqu'on considère que la littérature est suffisante. Et là, comme la qualité de preuve était assez basse, il y a eu un Delphi au sein du conseil scientifique du collège. Et les recommandations ont été validées, avec 80% d'accord au premier tour et au deuxième tour. Donc voilà la question. La première question, celle que je vais détailler plus, c'est celle qui concerne les interruptions volontaires de grossesse, les fausses couches, les grossesses arrêtées. Donc comment est-ce qu'on peut évaluer ? En fait, il y a trois méthodes pour évaluer, que je vais vous détailler, pour évaluer cet intérêt des immunoglobulines anti-D. Évidemment, ce qu'on voudrait, le gold standard, c'est d'avoir un essai randomisé où on administre des anti-D versus la même population à qui on n'administre pas les anti-D. Ça serait notre question PICO par excellence. Mais cet essai randomisé, il a été conduit en 1972 et vous voyez, il a inclus une cinquantaine de patientes et il n'a pas pu conclure puisqu'il n'y avait aucune alloimmunisation dans aucun des deux groupes. Ça, c'est un problème de puissance, évidemment. Il y a eu aussi d'autres études qui étaient interventionnelles, qui ont inclus des grossesses arrêtées, des interruptions volontaires de grossesses chirurgicales. Et là, ils comparaient l'administration d'immunoglobuline versus l'absence d'administration. Et ces études, pour certaines, ont montré qu'il y avait plus d'alloimmunisation dans le groupe sans immunoglobuline, mais elles avaient de nombreux biais, qui étaient notamment l'absence de datation très précise de la grossesse dans ces années 1970, où l'échographie n'était pas systématique, et puis d'autres biais, notamment l'absence de groupe témoin, c'est-à-dire les femmes qui ont la grossesse qui se poursuit et qui n'ont pas reçu d'immunoglobuline anti-D. Donc une littérature qui présentait un certain nombre de biais, et ces études anciennes n'ont pas vraiment permis de conclure sur l'efficacité des immunoglobulines. Une autre méthode qu'on peut utiliser, c'est une approche sur l'effet de la prophylaxie en population. Et là, il y a une étude ici ailleurs qui a été menée, qui est plus récente, 2019, entre le Canada, où les immunoglobulines étaient systématiques pour les IVG et les grossesses arrêtées, versus les Pays-Bas, où il n'y avait pas de prévention systématique avant 7 semaines pour les IVG et pas de prévention systématique avant 10 semaines pour les grossesses arrêtées. Donc là, c'est une étude ici ailleurs en population, des données de 2006 à 2015. Et ce qui a été mis en évidence à partir de la prévalence calculée des alloimmunisations pour les grossesses suivantes, eh bien, c'est une absence de différence sur le taux d'alloimmunisation. Vous voyez, environ 4 pour 1000 dans les deux pays suite à cette conduite à tenir vis-à-vis de la prophylaxie qui est différente entre les deux pays. Donc des prévalences comparables, une analyse de sensibilité qui va dans le même sens, mais évidemment, certaines limites, on n'est pas dans les essais randomisés, donc des populations des deux pays qui ne sont pas strictement comparables, et c'est beaucoup plus difficile de conclure sur la causalité quand on est dans une étude observationnelle de ce type. Cependant, on peut conclure à des résultats plutôt en faveur de l'absence d'effet dans ce contexte précis en population. Et enfin, la troisième approche, c'est une approche plus physiopathologique. Et donc ça, c'est une étude plus récente de 2023 qui a été publiée dans le JAMA et qui, elle, a cherché à mettre en évidence le passage des hématies fœtales. Donc une étude américaine multicentrique observationnelle qui a inclus des patientes entre 2019 et 2022 et qui regarde le passage des hématies fœtales dans la circulation maternelle par une technique de cytométrie en flux dont on vient juste de parler. C'est des patientes qui avaient bénéficié soit d'une IVG médicale, soit d'une IVG chirurgicale avant 12 semaines d'aménorrhée. Et donc, ils ont détecté les hématies fœtales par cytométrie en flux avant la procédure chez toutes les patientes, après la procédure chez toutes les patientes, pour pouvoir conclure à l'imputabilité du passage des hématies à la procédure elle-même versus le passage des hématies au cours du premier trimestre, indépendamment de ce qui se passe. Et comme le protocole de cytométrie a été modifié pendant l'étude, eh bien, ils ont fait plusieurs groupes avec des protocoles différents. Et donc, ils ont inclus une centaine de patientes en IVG médicale avec le premier protocole, 200 patientes avec le deuxième protocole et près de 200 patientes pour les IVG chirurgicales. Les résultats principaux, c'est qu'il y a une absence d'augmentation quantitative de la concentration des hématies fœtales du fait de la procédure. Ils ont considéré un seuil d'immunisation qui est loin d'être consensuel, mais qui était à 125 hématies fœtales pour 5 millions d'hématies adultes. Il y avait une seule patiente pour ce seuil qui était au-dessus du seuil après la procédure. Il y en avait trois qui étaient au-dessus du seuil avant la procédure. Or, la seule pour laquelle c'était positif après la procédure, c'était aussi positif avant la procédure. Et c'était vrai aussi dans cette absence d'augmentation des hématies fœtales chez les patientes qui avaient des métrorragies au cours du premier trimestre. Donc, il a été considéré que ce résultat pouvait être extrapolé aux grossesses arrêtées et aux fausses couches. Par ailleurs, on s'intéresse au risque des immunoglobulines anti-D. Donc, c'est un médicament qui est dérivé du sang, obtenu, vous en avez parlé ce matin, par des donneurs sains nord-américains hyper-immunisés et rémunérés. Et la spécialité pour la France, c'est le Rofilac. Le risque infectieux, il est très faible, évidemment. On ne peut pas affirmer qu'il est nul. Il peut y avoir des agents infectieux non identifiés encore qui pourraient être mis en évidence. Les risques allergiques sont extrêmement faibles. Il n'y a aucun effet grave avec le Rofilac, mais il y a eu quelques cas rapportés de réactions graves avec une autre spécialité. Donc ce sont des risques qui sont extrêmement rares. On peut le dire, on peut quand même être rassurant, mais potentiellement graves. Et puis c'est une administration médicamenteuse, quoi qu'il en soit. La population concernée calculée par les grossesses par les IVG, ça serait environ 61 000 patientes par an. Donc, au vu de l'ensemble de ces données, il a été considéré que les avantages apportés par l'Orofilac ne pouvaient pas être affirmés au premier trimestre de la grossesse. Et donc, il est recommandé de ne pas administrer d'immunoglobuline avant 12 semaines d'aménorrhée dans le but de réduire le risque d'alloimmunisation en cas d'interruption volontaire de grossesse arrêtée ou de fausse couche. Et c'est la même chose pour les métroragies sur les grossesses évolutives. C'est une recommandation qui est faible et la qualité de preuve, comme je vous disais tout à l'heure, est considérée comme très basse. Donc ça, c'est la première partie. Et en revanche, on n'a pas fait les mêmes conclusions sur la partie sur les grossesses extra-utérines. Et je vais vous dire assez brièvement pourquoi. Certes, il y a cette étude observationnelle que je viens de vous présenter, mais on a considéré que c'était difficile d'extrapoler ces résultats à la grossesse extra-utérine où le mécanisme de passage des hématies fœtales peut être considéré comme différent. Il n'y a vraiment pas d'études de qualité qui portent spécifiquement sur le risque d'alloimmunisation en cas de grossesse extra-utérine, seulement des études très anciennes dans des cas d'hémopéritoine massif qui montrent qu'il y a effectivement des cellules fœtales qui passent dans le péritoine quand il y a un épanchement sur une grossesse extra-utérine rompue. Et donc, on a considéré que les données de la littérature étaient insuffisantes pour pouvoir déterminer s'il fallait faire une injection. Et donc, il n'y a pas de recommandation, ce qui fait que les deux options sont possibles et c'est des protocoles de service où on peut décider soit de poursuivre, soit d'arrêter. Quelques derniers mots pour vous dire que c'est un changement de pratique qui a suscité des réactions. Et donc, quand les recommandations sont parues dans la revue rouge de gynécologie obstétrique et fertilité, il y a eu des réponses. Et c'est vrai qu'on peut se poser des questions et on peut discuter de comment interpréter ces résultats. Pour vous dire brièvement un petit peu les points de discussion qui ont été mis en évidence, je vous ai parlé de la question du seuil pour le risque d'alloimmunisation. C'est vrai que c'est un seuil qui me semble assez élevé et que probablement, on sait qu'il peut y avoir des immunisations à des seuils plus bas que 125 hématies fœtales pour 5 millions d'hématies adultes. Cependant, il n'y a pas non plus de différence en quantitatif continu entre les passages des hématies fœtales avant et après, y compris pour les petits chiffres. Qu'est-ce qu'on fait des études observationnelles quand même qui ont décrit des alloimmunisations au premier trimestre? Elles existent, ça existe, les alloimmunisations qui arrivent au premier trimestre. Je vous ai dit tout à l'heure qu'elles avaient beaucoup de biais, d'imprécisions, mais surtout elles n'ont pas de groupe contrôle de femmes qui n'ont pas saigné, qui n'ont pas fait d'IVG et qui ont poursuivi leur grossesse. Et dans ces cas-là, si on va plus loin, si on veut vraiment avoir utilisé toutes les précautions, il faudrait traiter toutes les femmes au premier trimestre pour pouvoir couvrir aussi les passages des massifs fœtales en l'absence d'événements sentinelles. Et enfin, il y a des questions sur la manière de s'exprimer, puisque ce qui nous est parfois dit, c'est quand on dit « il est recommandé de ne pas administrer tel médicament », est-ce que ça devrait être réservé aux médicaments qui sont dangereux ? Eh bien, ce n'est pas vraiment la philosophie de la question PICO, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et pour nous, l'objectif des recommandations, c'est aussi de ne pas nuire. Et donc, si on a des preuves pour penser qu'un médicament n'est pas efficace, même s'il n'est pas considéré comme franchement dangereux, eh bien à ce moment-là, c'est aussi de notre responsabilité de décider qu'il ne faut pas l'administrer et de faire le principe de précaution dans ce sens-là. Donc, ma dernière diapo, on espère pouvoir aller plus loin dans l'identification des cause d'alloimmunisation et du nombre d'alloimmunisations qui serait qui arriverait effectivement au premier trimestre, qu'il y ait eu une interruption de grossesse ou pas. Et bien sûr, il faut aussi continuer les études en population telles qu'elles ont été décrites là sur le Canada et le Pays-Bas, en faisant en France une surveillance de la prévalence post-RPC. Et voilà, je vous remercie beaucoup.